Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse vous installer, si ce n'est pas déjà fait. Ça fait plaisir de vous voir, chacun, chacune ce matin. Bienvenue à ceux qui nous regardent aussi en ligne. Bienvenue tout particulièrement à ceux qui sont là pour la première fois. Je vois plein de visages que je ne connais pas encore, ça fait toujours plaisir. Soyez les bienvenus. Les enfants, est-ce que vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui? Ouais, vas-y, dis-le bien fort. Le 1er février, exactement. Premier dimanche du mois, premier jour du mois. Et puis cette année, il y a quelque chose de spécial qui va se passer tous les premiers dimanches du mois. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Vous avez dû le lire dans un actu. Ouais, témoignage de reconnaissance, exactement. En tout cas, quelque chose autour de la reconnaissance. Hein, toute cette année, on va parler de la reconnaissance de différentes manières. Alors, tout n'est pas encore établi, hein, donc on a aussi besoin de vous pour ça. Mais on aimerait donner de la place pour ce sujet, se focaliser un petit peu sur ce sujet cette année, et puis particulièrement tous les premiers dimanches du mois. Et donc, c'est ce qu'on va faire déjà aujourd'hui. Et puis, pour les dimanches suivants, eh bien, on fait appel à vous. Si vous avez des sujets de reconnaissance, ça peut être des petits sujets, des grands sujets, on est ouvert à plein de choses. Alors, si possible, pas au tout dernier moment, si c'est des choses qui vont chambouler le culte, mais on est prêt à être créatif. Okay? Certains plus que d'autres, hein, mais voilà. Moi, je suis très prêt à être créatif. Donc, si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut vivre ça, des choses à raconter, que ça peut être une vie de reconnaissance ou hier, j'ai vécu un truc, je suis reconnaissant, eh bien, dites-le nous. Hein, venez vers moi, venez vers Philippe, pour qu'on puisse intégrer ça dans ces premiers dimanches du mois, et puis ensemble se réjouir et être reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies. Voilà. Et je voulais aussi encore dire une chose, avant de laisser la place à Séverine qui a préparé quelque chose pour aujourd'hui autour de ce sujet, c'est qu'être reconnaissant, ce n'est pas ignorer les douleurs ou les difficultés de la vie. On en a un petit peu parlé un samedi, là où on était ensemble en conseil, puis ça m'a marqué, parce que c'est un peu ce que je vis dans cette saison de vie. Souvent, les gens me demandent comment ça va, et en fait, j'ai de la peine à dire ben, c'est difficile intérieurement, parce qu'il y a tellement de choses qui vont bien dans ma vie que j'ose pas, en fait. C'est comme si je me refusais ce droit d'avoir des choses qui sont difficiles. Mais non, c'est un peu idiot. On peut avoir les deux choses en parallèle dans nos vies. Des choses qui sont difficiles, on peut les reconnaître, en parler, prier par rapport à ça, se soutenir les uns les autres, et puis en même temps, se focaliser sur les choses qui vont bien, être reconnaissant, c'est important. Voilà, je voulais juste dire ça, parce que personnellement, ça m'a touché, puis je me suis dit, oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'ignore ce qui est difficile, simplement parce que je dis tout le temps à mes enfants, mais soyez reconnaissants. Voilà, on peut vivre les deux choses en parallèle. Séverine, je te laisse la place pour nous dire ce que tu as préparé ce matin.
Bonjour.
Salut.
Oula, bonjour. Salut. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui devant vous. C'est un privilège. Et puis, voilà, le thème de la gratitude, c'est un thème qui m'a beaucoup touchée ces dernières années. Je m'y suis plongée, j'ai vraiment un peu creusé, j'ai lu. Et puis, j'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui et de vous mettre en mouvement. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis enseignante. Et enseigner, c'est une chose, mais après, il faut mettre en pratique. Donc aujourd'hui, on va mettre en pratique ce thème de la gratitude. En fait, c'est un peu dans l'air du temps, hein, de parler de bien-être, de gratitude, de reconnaissance, de tout ce qui touche autour du développement personnel. Et puis, c'est vrai qu'on peut regarder sur Internet, toutes sortes d'études ont été faites sur les bienfaits, en fait, de la gratitude. On y voit que la gratitude réduit le stress et l'anxiété. On y voit que ça améliore la qualité du sommeil, parce que puisque le stress est réduit et que certaines hormones viennent, comme la dopamine, etc., ben notre sommeil est amélioré. On y voit une confiance en soi boostée. On y voit des relations sociales et de l'empathie envers les autres. Quand on remercie quelqu'un pour quelque chose, ben en fait, on fait du bien autour de soi. On nous dit que ça améliore notre santé physique, notre système immunitaire. Puisqu'il y a moins de stress, le stress chronique affaiblit notre corps. Ben, puisqu'on diminue le stress, notre corps se renforce. on y voit aussi une perception plus positive de notre quotidien. Le cerveau, en fait, est un muscle qui s'adapte, en fait, aux pensées qu'on cultive. Donc, si on cultive de bonnes pensées, notre cerveau se développe bien. Ça stimule la motivation, la résilience. Bref, et je me suis dit, mais en fait, que dit la Bible de tout ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et en fait, la Bible, elle a tout autant de choses à dire que notre société. Et puis, donc, y a aussi des points qui m'ont touchée dans cette recherche et j'aimerais les partager maintenant avec vous. En fait, la reconnaissance, ça recentre nos perspectives de vie. C'est refuser de laisser mes problèmes être plus importants que les bénédictions de Dieu. C'est hyper fort. En fait, c'est refuser. C'est-à-dire dire non. J'ai des problèmes, comme disait Thierry, ils sont là. Mais en fait, je refuse que ça dicte ma vie, que ça dicte mon regard avec Dieu. La reconnaissance, elle accroît notre humilité. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive n'est que don de Dieu, en fait. Ne serait-ce que déjà le premier souffle de vie qu'on a en naissant, c'est un cadeau. Et tout ce qu'on a est cadeau. Notre santé, la respiration, nos pensées, sans parler des choses matérielles. Elle construit notre foi. C'est-à-dire que quand on a un cœur ouvert, ben en fait, on est ouvert à la fidélité et à la présence de Dieu dans notre vie. Et ça nous aide à dire dans le passé, voilà ce que Dieu a fait, au présent, ce qu'il fait, et je crois que dans mon futur, voilà ce qu'il va faire. C'est garder les yeux grands ouverts et découvrir que malgré les apparences, Dieu est là et qu'il est encore en train d'agir. C'est le même Dieu que celui de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Et c'est le Dieu d'aujourd'hui. La reconnaissance change notre désespoir en joie. Peut-être qu'on peut ressentir de l'inquiétude, du découragement, du doute, de la colère, de la tristesse. Et puis, ce n'est pas une forme de déni. Ce n'est pas dire « tout va bien dans le meilleur du monde, ça ira ». Mais c'est dire « dans ce que je vis là, quelle est la bénédiction que je ressens malgré tout ?» Et c'est un super exercice, mais qui est très dur. En fait, c'est là que la paix de Dieu peut intervenir dans notre vie. Cette paix qu'on dit, hein, qui est dit dans la Bible, qui dépasse tout entendement. La reconnaissance, elle met aussi de l'ordre dans nos priorités. En fait, ça nous aide à comprendre ce qui est réellement important, en fait, dans notre vie. Et puis, elle définit nos désirs personnels. On passe d'une attitude de « je veux, je voudrais » à « je remercie ». Et en fait, ça nous apprend à être content de ce qu'on a. Et en fait, ça, c'est une marque de maturité spirituelle. Et puis, la reconnaissance, elle accroît notre compassion. Parce que quand on est reconnaissant de ce qu'on a, eh ben aussi, on peut physiquement et matériellement le partager. Et en fait, c'est ce qu'on est invité à faire aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétien. Alors, comment faire? Pratiquer la gratitude, c'est entraîner son cerveau à voir et apprécier les aspects positifs du quotidien, même dans les périodes difficiles. On peut le faire par le chant. D'ailleurs, quand on chante des louanges, c'est une manière de reconnaître Dieu et de reconnaître Jésus, son don, le don de sa vie pour nous. On peut le faire dans la prière. Hein, souvent, on rend grâce quand on est à table. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Jésus juste avant de mourir. Il savait qu'il allait passer par... Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, si je sais que je vais mourir dans quelques heures, est-ce que je suis capable de dire merci? Ça m'émeut. Donc, on peut le faire par la prière. On peut aussi montrer notre reconnaissance par des dons, que ce soit des dons au niveau de notre service ou des dons matériels, Dans l'Église, ça se montre aussi par les services qu'on peut rendre. Ça se montre aussi par les dons qu'on peut faire au moment de l'offrande ou même le don de son temps en dehors de l'Église. Ça peut être dans partager notre témoignage. Et la puissance du partage d'un témoignage, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous encourager, pour nous bénir. Et puis, on peut le faire en écrivant. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Vous avez tous reçu un petit papier. C'était une petite amorce pour vous rendre un peu curieux sur ce qui allait se passer. Et en fait, on va faire un tout petit exercice. Donc, je vous montre un cahier. Le cahier des gratitudes de l'Église évangélique pour 2026. Il est vierge, il n'y a rien dedans. Et puis, en fait, on va ensemble, en tant que communauté, remplir ce cahier à tel point qu'il faudra en acheter un deuxième, peut-être même un troisième pour l'année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en y mettant nos reconnaissances, on atteste déjà qu'on veut remercier Dieu pour tout ce qu'on a et remettre, voilà, se remettre nos priorités en ordre, se soumettre à lui. Mais c'est aussi un encouragement pour les autres. Et ce livre, il se veut interactif, c'est-à-dire qu'il sera dans le foyer de l'Église, mais il ne va pas juste être un livre posé sur une étagère. L'idée, c'est qu'à la fin de l'année, ils soient un peu écorchés, qu'on ait tourné les pages, qu'il y ait plein de mots dedans. Et donc, je vous invite ce matin à y mettre un premier mot chacun de reconnaissance. Alors, si vous ne savez pas quoi écrire, je vous invite à réfléchir à vos cinq sens. Louis, est-ce que vous êtes reconnaissant pour quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui ? Ça peut être un oiseau qui a chanté en venant en chemin. Ça peut être la voix de quelqu'un que vous aimez bien dans l'église. Tout petit. Ou alors, quelque chose que vous avez touché ou vous vous êtes laissé toucher. Moi, ça a été le câlin de Zélie ce matin. J'étais en train de préparer ce moment. Elle est arrivée, elle m'a fait un câlin par derrière. Donc voilà, ma gratitude du matin, c'est le câlin de Zélie au niveau du toucher. Ça peut être le goût, le café que vous avez pris, la bonne tartine avec le beurre, j'en sais rien, le verre d'eau au réveil, le dentifrice, peu importe. Ça peut être quelque chose que vous avez senti avec le nez. Hein, une odeur, l'odeur du café par exemple, l'odeur du parfum de votre chérie ou l'odeur de la lessive dans le pull que vous avez mis ce matin. Ouais. Et le cinquième sens, la vue. Merci. Voilà, Paul Robert, ma gratitude c'est de le voir ce matin à l'église parce que c'est quelqu'un que je vois depuis très longtemps. Donc voilà. Et puis, sur ce cahier, il y a un arbre, en fait, et avec des oiseaux. Et puis, j'aimais bien cette idée qu'en fait, c'est un peu comme des petites graines qu'on sème. On en a parlé lors du conseil de cet arbre. Et puis, en fait, ces gratitudes, le souhait, c'est que ça puisse semer plus loin. Et puis, dans votre quotidien, de pouvoir simplement y penser régulièrement. Et pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin, je vous conseille ce livre, 1000 cadeaux. C'est une femme canadienne. Il a été écrit en anglais d'abord et ensuite traduit en français. Assez bien traduit. Anne Voskamp, qui s'est donné pour mission d'écrire 1000 gratitudes. Parce qu'en fait, elle n'y arrivait pas. Et puis elle a dit, j'écris des toutes petites choses, une phrase. Et puis elle est arrivée à 1000. Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus facile. C'est comme l'entraînement, comme un exercice. Donc nous, on va aussi faire la même chose dans l'église, écrire nos 1000 gratitudes. J'espère qu'on arrive à 10 000. Et puis voilà. Alors, vous avez donc un petit papier. Je vous invite maintenant à écrire une phrase que vous êtes d'accord de partager, parce qu'ensuite, on passera à une petite corbeille et vous pourrez mettre votre petit mot dedans et tout à l'heure, on commencera à les coller. Et puis, vous pourrez déjà lire, etc. Et non, ne vous faites pas de soucis, je vous relancerai durant l'année. Hein. Ce n'est pas une bonne résolution qu'on fait juste le 1er février. Mais voilà. Et encouragez-vous les uns les autres aussi. Alors, je vous laisse quelques minutes. partager la gratitude avec la personne à côté de vous déjà. Alors, on a quelques enfants qui passent avec des petites corbeilles. Et vous pouvez mettre vos merci dedans. Et je reviens juste sur la notion des recherches qui ont été faites. En fait, ça a été montré qu'on ne peut pas être anxieux et reconnaissant en même temps. Et donc, si vous êtes anxieux, je vous invite à lire les gratitudes des uns des autres dans le cahier de l'Église évangélique. Et vous me direz comment vous vous sentez après. Et je crois que c'est pour cette raison-là que dans la Bible, c'est souvent dit, soyez reconnaissants. Parce qu'en fait, notre Dieu sait qu'en fait, dans notre reconnaissance, en fait, on dit non à l'anxiété, on dit non à la peur et on dit oui à l'amour.
Merci beaucoup Séverine. Alors, finissez gentiment. Vous pouvez même en écrire plus qu'un s'il faut. Hein. Les enfants, dès que vous avez fini, vous pouvez descendre gentiment dans vos groupes. Et puis, en attendant, on va commencer le temps de chant. Une manière de dire notre reconnaissance. Merci à David et Lionel qui ont préparé ce temps.
Et après cette introduction, quoi de mieux pour de chanter un chant avec vous, avec joie, un chant de célébration. Moi, ce matin, j'ai eu la chance, la joie, c'est vrai qu'une gratitude, c'est que j'ai fait connaissance avec un nouveau chez nous, un nouveau qui est venu ici à l'église, c'est Alexandre. Bienvenue, Alexandre. Il est là, derrière. Merci. Parce que lui, tu as venu parmi nous. Et puis, bienvenue à tout le monde, bien sûr.
que rien ici-bas ne l'efface. C'est le cri de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, mon bienfaiseur et la goutte. Tout autant que ce soit toi.
Seigneur Dieu, merci. Tu es le Dieu qui aime. Seigneur Dieu, tu es celui qui tend la main vers nous pour nous relever de la chute, Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui pleure avec nous. Tu es le Dieu qui connaît nos souffrances. Tu es le Dieu qui nous rejoint dans nos errements, quand nous sommes perdus, quand nous ne comprenons plus ce qui se passe. Tu es là, Seigneur. Merci. Seigneur, oui. Tu es le Dieu qui a tellement aimé que tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. Et Seigneur, difficile de mesurer que tu connais nos souffrances, et ceci même est une bénédiction. Et je vous invite à prier, si vous le souhaitez, quelques instants pour remettre aussi votre douleur, peut-être, pour que Jésus la transforme en pansement, en bénédiction.
Me relève, mais je sais que tu l'as fait sans jamais manquer ni de compassion ni de grâce ni de miséricorde. Merci pour ta main toujours tendue. Merci de nous conduire vers ton Père qui nous console ici-bas. C'est tellement précieux. Merci.
Amen.
Merci pour ta bienveillance, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour. Ouais.
Reprenons le refrain. Tu viens relever le faible. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Et je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent qu'à la fin du culte, il y a une petite équipe qui prie pour, qui peut prier pour vous, qui peut prier avec vous si vous avez un sujet à cœur que vous n'avez bien sûr pas envie de partager comme on vient de le faire. Eh bien, il y a une petite équipe, vous pouvez simplement vous approcher ici de la scène à la fin du culte et on prendra le temps de prier avec vous. Et chantons ensemble encore le chant « Notre Père qui es aux cieux », ce chant de la prière que Jésus nous a appris.
Bonjour à chacun, à chacune. Dans mes sujets de reconnaissance, il y a presque chaque jour que Dieu fait l'Église. C'est un privilège d'avoir une Église telle que la nôtre. Alors, il y en a beaucoup dans le monde. Mais je prends conscience, plus le temps passe, plus les années passent, plus les circonstances de la vie passent, à quel point le fait d'avoir, d'être une église ensemble est précieux. Dans quelques semaines, le 8 mars prochain, nous vivrons ici un culte avec des baptêmes. En tout cas deux. Alicia, qui n'est pas là ce matin, mais que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous, une jeune femme du groupe de jeunes, Alicia Strelli, et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais pour qui j'ai la plus grande des amitiés, c'est Benoît Adam. Et j'aimerais te demander de te lever, peut-être venir même ici, tiens, viens vite Benoît. Benoît, on se connaît depuis longtemps, moi je l'ai connu enfant, ce n'est plus un enfant, je l'ai connu petit, il est grand. Et c'est le fils de chers amis Joël et Sylviane Adam. Il y a sa sœur aussi, Rivka, hein, qui est là ce matin. Et Benoît sera baptisé le 8 mars prochain. Ici, vous aurez l'occasion d'entendre son témoignage. Il y a de belles choses à raconter, mais comme ça, vous voyez aussi un petit peu sa tête. C'est le 8 mars prochain. Merci, Benoît. On se réjouit. Et puis, ben, si jamais l'un ou l'une d'entre vous réfléchissait encore au baptême, eh bien, il y a la possibilité. Ce sera un culte avec des baptêmes ici le 8 mars prochain et on se réjouit beaucoup. Nous aurons à l'issue de la prédication un petit moment avec l'appli Slido. Donc Slido, vous vous souvenez, une application facilement atteignable sur vos smartphones. Il suffit de renseigner le numéro 359 94 54. Vous pouvez poser des questions et puis on prend quelques instants pour y répondre tout à l'heure après la prédication. On trouve dans la Bible des récits de miracles, et notamment des miracles de guérison. Il y en a beaucoup dans les évangiles, puis beaucoup dans le livre des Actes. Les évangélistes ne nous les racontent pas seulement pour nous dire que Jésus était un type formidable et qu'il accomplissait des tas de choses extraordinaires. Jésus lui-même se méfiait d'une popularité basée sur ses miracles. Il s'en méfiait. Et je vous propose de vous en méfier aussi. Ces miracles, ils nous sont racontés parce qu'ils ont valeur de signes et qu'ils sont toujours l'occasion d'une rencontre saisissante avec des gens qui souffrent, avec des gens qui sont en détresse et qui trouvent en Jésus et en lui seul une libération, un salut, la rédemption. Ils peuvent être pétris d'angoisse comme nous pouvons l'être ce matin. Ils peuvent faire face à des obstacles majeurs dans leur vie, à des déceptions immenses. Ils peuvent être submergés. Et Jésus les rencontre là où ils sont pour ne pas les garder là où ils sont. Il y a un petit peu plus d'un mois, nous fêtions Noël. Vous vous souvenez ? Ça reviendra vite si jamais vous en souvenez pas. Dieu fait homme, l'incarnation. Et des fois, nous avons du mal à comprendre exactement ce qui s'est passé dans l'incarnation. Dieu fait homme. Et j'aimerais noter que Dieu s'intéresse bien plus à notre foi qu'à notre compréhension. Dieu veut que nous le connaissions bien plus qu'il ne veut que nous l'expliquions. Les rencontres de Jésus. Ces rencontres de Jésus se transforment souvent en grandes leçons de vie, en grandes leçons de foi. Nous y trouvons de quoi nous remettre en question, nous relancer, recalibrer les choses, faire des réglages, des gros réglages ou des petits réglages. J'aimerais qu'on essaye de repérer ces leçons de foi dans le récit que nous allons lire maintenant. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, et nous lisons ensemble les versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Où sont les 9 autres ?» Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Une première question, quand je lis un texte comme celui-ci, première question qui s'est imposée, c'est est-ce que c'est vraiment Jésus qui a guéri les 10 lépreux ou pas ? Parce que dans les Écritures, il y a bien des guérisons qui ne laissent aucune ambiguïté. Des guérisons qui sont massives. Les paroles, les gestes de Jésus sont explicites. Ça ne laisse aucun doute. Il touche quelqu'un, il est guéri. Il dit une parole, elle est relevée. Mais pas ici. Puisque Jésus leur dit simplement, à ces 10 lépreux, d'aller se montrer au prêtre. Et le texte nous dit que c'est en chemin qu'ils sont guéris. Mais au moins, pour l'un des 10 lépreux, il n'y a pas de doute. C'est bien Jésus qui les a guéris. Lui seul le relève. Pourquoi est-ce que Jésus s'y prend ainsi ? Alors, je ne crois pas qu'il est en train de se débarrasser d'eux. Hein. Il ne leur dit pas « Allez vous faire voir chez les prêtres ». Mais il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pas tout à fait la même chose. À l'époque, on ne distinguait pas vraiment la lèpre d'autres maladies de peau plus ou moins graves. Mais 2 chapitres entiers du Lévitique sont consacrés à ce sujet de la lèpre. Avec la description des maladies, c'est Lévitique, chapitre 13, et tous les cas de rites de purification à accomplir une fois qu'on est guéri. Chapitre 14. La lèpre, ce qu'elle implique, la lèpre, ce qu'elle demande. Lévitique 13 et 14. Et la lèpre était considérée non seulement comme une maladie, et c'en est une, mais aussi elle était considérée comme une malédiction, un signe d'impureté, une image du péché qui abîme intérieurement, extérieurement, lentement, qui est fatal en fin de compte. Ce qui faisait des lépreux des parias. Un peu comme les gens atteints du sida dans les années 80. Il a fallu des gestes forts pour montrer qu'ils n'étaient pas des parias. Les lépreux, ils étaient obligés de vivre en marge de la société. Ils ne devaient avoir aucun contact avec les gens sous risque de les rendre impurs à leur contact. Et on le voit dans notre récit. Parce que les lépreux se tiennent à distance de Jésus, ce qui les oblige à crier, verset 13, « Jésus, aie pitié de nous !» Mais ils sont loin, ils doivent crier. Or, un lépreux devait aller se montrer au prêtre au début de sa maladie pour que le prêtre le déclare impur. Et puis il devait y aller à la fin de sa maladie, lorsqu'il était guéri, s'il était guéri, pour que les prêtres constatent la guérison et disent « Ok, c'est bon, tu peux revenir dans la communauté des gens. » l'authentification de leur guérison leur permettait alors de retrouver une vie sociale, une place dans la société, un peu d'humanité, de chaleur humaine. Et c'est évidemment le deuxième cas qui concernait les lépreux de notre récit. À l'exception près que quand Jésus les envoie chez les prêtres pour montrer qu'ils étaient guéris, ils n'étaient pas encore guéris. Donc, ce que fait Jésus, c'est de faire appel à leur foi. Les gars, vous n'êtes pas encore guéris, mais vous allez l'être, et il faut que ce soit constaté, donc allez vous montrer aux prêtres. Il fait appel à leur foi. Jésus les envoie avec une promesse de guérison dont ils doivent se saisir, qu'ils doivent prendre pour eux. Il met leur foi à l'épreuve. Et ils le font. Tous les 10. Les 10 lépreux font preuve de foi. Ils sont impeccables. Et ils sont bel et bien guéris en chemin, dit le texte. Pas sur le coup, en chemin. Les 10 lépreux illustrent alors de façon impressionnante ce qu'est fondamentalement la foi. La foi, fondamentalement, c'est la confiance qu'on place dans la parole du Christ. C'est ça la foi. La confiance qu'on place dans la parole du Christ. Une confiance qui s'exprime alors même qu'on ne possède pas encore ce qu'on espère, qu'on ne voit pas encore ce qui nous est promis. Ça, c'est écrit bien après Jésus. C'est écrit par l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. La foi, c'est ce qu'on espère, mais qu'on n'a pas encore touché. Mais une foi qui fait confiance, qui se met résolument en route. La foi, elle ne se démontre pas. Elle n'est pas fondée ni sur la vue, ni sur la raison seule. Elle ne s'explique pas, la foi. Elle est fondamentalement un choix, une décision de placer sa confiance en Dieu pour de bon. Placer sa confiance en Dieu pour de bon. Et si ce matin, on le faisait comme tout à nouveau, vous et moi, placer notre confiance en Dieu pour de bon. Beaucoup d'entre nous, on est tombés dans la marmite il y a longtemps. Et 1000 fois, on l'a déjà fait, placer notre confiance en Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend ça pour la première fois ce matin. Et à tout dans la vie, il faut une première fois. Placer sa confiance en Dieu pour de bon. Et si juste comme ça, on le redisait à Dieu, malgré ce qui nous submerge, malgré nos imperfections, malgré nos fautes, nos péchés, notre culpabilité, malgré nos approximations, je place ma confiance en toi pour de bon, parce que tu me relèves, parce que tu me remets en route, parce que tu me pardonnes, parce que tu mets du sens dans ma vie, je place ma confiance en Dieu pour de bon. Et si on le faisait chacun, chacune, ce matin? La foi, elle met en marche, et cette mise en marche qui nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu, de nous les approprier, qu'elle soit pour nous. C'est quand on fait la route qu'on s'approprie les choses. On peut en théorie parler d'une excursion. Claude et Francine auraient pu nous parler en théorie du sentier parcouru pendant des mois. Mais c'est quand on le fait qu'on le réalise. C'est quand on se met en route qu'on se l'approprie. Et la foi marche comme ça. Et notre récit ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un truc qui cloche. Les 10 lépreux ont eu confiance dans la parole du Christ et les 10 lépreux ont été guéris. Mais un seul est revenu auprès de Jésus. Un seul. Un dixième. 1 sur 10. C'est un peu léger, non? C'est quoi? De l'ingratitude, de l'indifférence? Peut-être. Ou alors, ils ont privilégié l'obéissance au rite, à la loi, à Deutéronome 13 et 14. Ils ont privilégié l'obéissance au rite à la reconnaissance spontanée envers celui qui les a guéris. En tout cas, Jésus lui-même s'étonne, puisqu'il demande « Et les nôtres ?» Ils sont passés où, les nôtres? C'est Jésus qui pose la question. Ils sont où? Ben ouais, quand même, sérieux. Celui qui est revenu n'est pas allé voir les prêtres en priorité. Il n'a pas obéi à la loi, mince alors. On ne sait même pas s'il allait les voir après être revenu vers Jésus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a considéré comme une priorité impérieuse d'interrompre un acte rituel pour exprimer sa reconnaissance à Jésus. La reconnaissance, d'abord, je ne sais pas comment le dire autrement, la reconnaissance, d'abord, le reste suivra. Mais d'abord la reconnaissance. On casse le code. On n'est pas dans la religion. On n'est pas dans l'obéissance au rite. La reconnaissance d'abord. Et plus que ça, plus que la reconnaissance, il considère comme une priorité absolue d'apporter à Jésus un hommage qu'on ne donne qu'à Dieu. Parce qu'il se prosterne devant lui. Verset 16. Et ça, dans la religion juive et apparentée, y compris samaritain, on ne le doit qu'à Dieu. Donc, ce lépreux guéri considère que Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Des fois, on voudrait apprendre à connaître Dieu, dit-on. Il y en a même qui osent faire des études en théologie pour apprendre à connaître Dieu. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus. Des catéchismes entiers, il y a eu des centaines de milliers d'heures de conférences. Connaître Dieu, c'est regarder Jésus. Vous voulez savoir de quel bois Dieu se chauffe, regardez Jésus. Il est Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre la foi du lépreux revenu auprès de Jésus et la foi des 9 autres? Parce que les 10 lépreux ont fait preuve de foi, les 10 lépreux se sont mis en route. Est-ce que ce n'est pas le plus important finalement, juste de se mettre en route, d'avoir la foi? Mais un seul a fait preuve de reconnaissance, de gratitude, d'attachement à Jésus. Et c'est cette foi-là que Jésus montre en exemple. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quelle foi? Une foi reconnaissante. Je crois que la différence, elle est là. Dans l'attachement au Christ, dans la reconnaissance que nous lui témoignons, c'est beaucoup mieux qu'un renvoi d'ascenseur. C'est une ample gratitude. Je lui dois tout. La foi ne peut pas se contenter d'une mise en marche dans la confiance, puis c'est tout. C'est pas juste ça la foi. Elle doit s'enraciner dans un attachement profond au Christ. Pas une pratique, les amis, pas une pratique, pas une doctrine, pas une confession de foi, mais une relation au Christ. Un attachement au-delà de la religion, au-delà des rites, au-delà de l'étiquette, au-delà de la culture, en attachement au Christ. Il y a une reconnaissance spontanée chez le lépreux de notre récit, qui est l'expression même d'une foi vivante, authentique, simple, spontanée. Une foi qui est empreinte de gratitude. Alors bien sûr, il ne respecte pas scrupuleusement ce qui était commandé par la loi de Moïse. Il ne respecte même pas scrupuleusement ce que Jésus avait dit. Et c'est pourtant là ce qui plaît à Jésus. Parce qu'il témoigne d'une foi authentique et vraie. Alors il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause la réalité de la foi des 9 autres lépreux guéris, mais c'est de souligner l'exemple de foi vivante du 10e qui revient. La foi vivante que le Christ attend de nous, ce n'est pas un attachement à un rite, à une doctrine, mais c'est un attachement à sa personne. C'est un truc assez personnel en fait, qu'on va venir nourrir régulièrement en fréquentant d'autres chrétiens, en nous confrontant aux différences du monde, aux tensions du monde, en venant régulièrement à la table de communion. Le Christ nous a demandé de nous nourrir de lui. Mieux vaut une foi spontanée et vivante, quitte à sortir un peu des cadres prévus, qu'une foi réduite à une stricte observance de rites et de croyances. Parfois nous avons du mal à accepter en notre propre sein des hommes et des femmes qui sont ici ou là un peu hors cadre de ce qui nous semble à nous normatif en matière de vie et de foi. D'une manière ou d'une autre, on a du mal à accueillir celui qui ne prie pas exactement comme nous, qui ne vit pas sa foi comme nous, celui ou celle qui a un parcours atypique, des expressions différentes. Dans tout groupe constitué, il y a une tendance forte à vouloir accueillir en intégrant de gré ou de force à sa propre culture, à ses propres valeurs, selon les normes et le modèle préconisé. Cette tendance, elle existe aussi dans les églises. Un détail mérite encore d'être souligné dans notre récit, parce que c'est Jésus qui le fait. C'est que l'homme qui est donné en exemple pour sa foi, c'était un Samaritain. Jésus dit, parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Le mot étranger souligne la piètre opinion que les Juifs du temps de Jésus avaient des Samaritains. C'était des frères ennemis. Les Samaritains et les Juifs ne s'appréciaient pas du tout. Pourtant, devant ses disciples, Jésus donne en exemple cet étranger, le Samaritain. Et d'ailleurs, quand on considère les évangiles, il faut bien reconnaître que ceux et celles que Jésus donne en exemple, quant à leur foi, sont rarement de bons Juifs pieux. Ici, c'est un Samaritain. Puis ailleurs, c'est un collecteur d'impôts, un collabo. Ou alors, c'est une femme païenne. Aujourd'hui, peut-être que Jésus prendrait en exemple une mère célibataire, courageuse, persévérante, montrée du doigt, mais que Jésus aime et valorise. Peut-être qu'il montrait un de ces fameux postes évangéliques qui se reconnaissent plus trop dans tout ce qu'on fait dans les églises évangéliques, mais qui aiment les églises et qui aiment le Seigneur. Et Jésus mettrait sa foi en valeur. Ou peut-être qu'il mettrait en valeur la foi d'un sans-papier, d'un requérant d'asile, dans ce domicile fixe, en disant « Voyez ce qu'il endure. » Plutôt que de le mettre en avion pour le raccompagner au Venezuela ou en Bolivie. Comprenez ce qu'il vit. Regardez sa foi. Jésus dira même aux pharisiens que les collecteurs d'impôts et les prostituées les devanceront dans le royaume des cieux.
Il dit ça aux théologiens de l'époque, aux spécialistes de la loi, aux chrétiens, tout bons sur toute la ligne, aux meilleurs d'entre eux. Il dit, et les gars, vous n'avez rien compris, ceux qui seront devant vous dans le royaume des cieux, c'est ceux que vous rejetez, les collecteurs d'impôts puis les prostituées. Matthieu 21, 31. On lui a d'ailleurs suffisamment reproché à Jésus de fréquenter des gens de mauvaise vie. Hein. Voyez l'étendue de son accueil et de sa grâce. Ressentez votre misère et tendez les bras vers lui. Il vous relèvera, il vous pardonnera. Jésus, il est du côté des plus faibles et des rejetés. Pas parce que Jésus exalterait la faiblesse ou la misère. Pas parce que Jésus dirait la norme, c'est d'être marginal. Mais parce qu'il est auprès de ceux qui savent reconnaître leurs besoins en lui. Des gens comme vous et moi, normaux, moyens, nous reconnaître en lui. C'est quand on a peu à soi, sinon rien du tout, qu'on prend conscience du manque et de celui qui seul peut venir combler le manque. Il n'y a rien de pire que le confort pour croire qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont au cœur de pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux, un cœur de pauvres. Il n'exalte pas la pauvreté à proprement dit. Il ne dit pas qu'on devrait vivre tous chichement. Il ne dit même pas qu'il ne doit pas y avoir de riches. Au contraire, un cœur de pauvre, ça c'est dedans. Ce savoir fini, cuit, saint et pécheur à la fois, et avoir besoin de lui. Et je conclue. Qu'est-ce que je retiens d'un récit comme celui-ci en conclusion ? Moi, j'ai pris une leçon de foi de ce lépreux samaritain guéri. Et plus encore après sa guérison qu'avant. Comment savoir distinguer la foi salvatrice de la simple émotion ou des paroles en l'air? Comment on fait pour distinguer la foi qui sauve de nos paroles en l'air? La réponse, c'est une générosité radicale. Il est dit que le jour du jugement dernier, la manière dont nous pourrons reconnaître les personnes qui ont une foi authentique, c'est par leur miséricorde. La miséricorde, c'est une corde à notre misère. Il y aura un jugement sans miséricorde pour ceux qui n'en ont montré aucune. La foi du lépreux, elle s'exprime non seulement dans la confiance qu'il a placée dans la parole du Christ, mais aussi et surtout dans son attachement joyeux, enthousiaste au Christ qui l'a sauvé et la gratitude dont il a témoigné. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est cette foi-là que le Christ montre en exemple. Le Christ valorise la reconnaissance, la gratitude. Ça paraît tellement bateau quand on dit on va avoir des cultes gratitude, une année reconnaissance. Pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas bateau. C'est primordial. La reconnaissance. Un exemple donc, et je finis là, qui souligne l'importance d'une foi vivante, authentique, une foi plus spontanée que soumise au rite. Une foi qui s'attache moins à une religion qu'à une personne. Le Christ vivant qui change la vie. C'est l'attachement au Christ qui est la sève qui rend notre foi vivante. La vie, elle ne peut pas être limitée par des carcans, des rites et des traditions. La qualité de la relation avec Jésus est infiniment plus vaste. Et des exemples un peu hors cadre, comme les évangiles en contiennent, sont là pour nous le rappeler. Alors mes amis, disons à Dieu notre attachement, notre besoin de lui, notre foi bégayante. Disons-la à lui. Et puis soyons vivants, vivants. attaché au Christ vivant, de qui tout découle. Et montrons-le très concrètement, avec reconnaissance et gratitude. Amen. Une bonne question. J'ai bien fait de la travailler en amont, celle-là. Est-ce qu'un Samaritain pouvait aller vers les prêtres de la synagogue juive ? Oui. Ils devaient même y aller et ils avaient des mesures de contrainte un peu plus importantes que les seuls juifs lambda. Mais oui, les Samaritains pouvaient et devaient aller vers les prêtres de la synagogue juive, en particulier en lien avec tout ce qui était rite de purification, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, avec toutes les codifications de l'époque. Oui, les Samaritains pouvaient aller vers les prêtres et devaient aller vers les prêtres de la synagogue juive. Je pense que s'ils n'auraient pas pu ni dû y aller, Jésus ne les y aurait pas envoyés. Il n'y a qu'une question. Alors dans ces cas-là, c'est soit qu'on a été beaucoup trop compliqué ou beaucoup trop clair. Je prie pour la seconde option. Et nous souhaite une bonne suite de culte avec la scène que Thierry va animer pour nous.
Voilà, merci Philippe. On va prendre maintenant le temps de la Sainte Cène. Une occasion de dire merci et une occasion de dire pardon. Une occasion de dire merci, j'ai beaucoup aimé ce que tu as relevé. J'aime bien, hein, on lit parfois des textes encore et encore, quand on est chrétien depuis de nombreuses années, et puis des fois il y a une petite chose qui ressort, le fait que Jésus a dit merci en sachant qu'il allait mourir peu de temps après. Ça m'a aussi marqué quand tu as relevé ça tout à l'heure, et on peut y penser alors qu'on prend cette sainte scène. Nous aussi, nous avons bien des occasions de dire merci. Et bien sûr, nous disons merci à Dieu, à Jésus, pour son sacrifice qui est là pour nous chaque jour, chaque instant, qui se renouvelle et dont on a tellement besoin. En tout cas, moi, j'en ai bien besoin chaque jour, chaque semaine. Donc, une occasion de dire merci pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, et aussi une occasion de dire pardon. Moi, chaque semaine, je dis pardon, chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, je dis pardon parce qu'il y a plein d'occasions dans ma vie de dire pardon. Je ne fais pas tout juste, je me risque à dire on ne fait pas tout juste, n'est-ce pas? C'est difficile, la barre est très haute avec ce que Jésus nous demande, mais il y a aussi beaucoup de grâce et il y a cette œuvre à la croix qui nous permet de continuer à avancer et de toujours dire pardon, je me relève, je continue, je réessaye, sois mon soutien. Okay, c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Donc ce matin, je vous invite à dire merci. Je vous invite aussi à dire pardon et puis à partager ce pain et ce vin qui représentent son corps et son sang versés pour nous. Si quelqu'un désir. Priez aussi pendant ce temps. Sentez-vous vraiment libre. On va passer avec les aliments. Merci.
Mais je te demande que je n'oublie jamais, que je ne m'habitue pas, mais que je n'oublie jamais que c'est le prix que tu as dû payer pour me réconcilier avec ton Père. À moi qui avais tant besoin de ton pardon et qui continue d'avoir tant besoin de ton pardon. Alors Seigneur, que cet acte d'amour que tu as accompli me fasse me souvenir de la reconnaissance que je te dois tout. Je te demande cette grâce au nom de Jésus. Amen.
Voilà. Maintenant, nous allons prendre une offrande pour les besoins de l'Église. Je vous rappelle en particulier, si vous êtes là la première fois en visite, que vous vous sentez vraiment libre de donner ou non. Mais merci d'avance pour votre générosité. Il y a des sachets qui vont passer. Et puis, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez utiliser le code QR avec Twin qui est affiché à l'écran. Trois petites annonces, trois rappels importants. Ce mardi à 20h, l'atelier biblique, ici dans nos locaux avec Philippe Anchaud. Mercredi, je vous rappelle qu'il n'y a pas la rencontre de prière communautaire qui est normalement prévue. On est toujours en réflexion, en prière, pour savoir comment on veut continuer ces temps-là. Mais comme je l'ai déjà dit, que cela ne vous empêche pas de vous réunir de manière informelle pour prier. Et puis, je vous rappelle aussi que dimanche prochain, c'est le culte du réseau évangélique à Palexpo, pas très loin d'ici. Donc voilà, tous ceux qui désirent y aller, sentez-vous les bienvenus là-bas, on s'y croisera certains. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est préparé ici, ça ne sera pas un culte comme à notre habitude, mais voilà, quelque chose est préparé, donc que vous soyez à un endroit ou à l'autre, quelque chose sera là pour vous. Les horaires sont plus ou moins les mêmes, hein, donc ça commence à 10h là-bas à Palexpo, il faut aller un petit peu plus tôt quand même, il y a beaucoup de monde, et puis c'est toute la journée, vous pouvez pique-niquer si vous le désirez, et puis ici, on commencera aussi à 10h, comme d'habitude. Voilà, on va... Ah, oui, alors vas-y. Un dernier mot.
Je me suis permise de coller vos gratitudes dans le cahier pendant la prédication. Alors j'ai écouté. Hein. j'ai besoin d'occuper mes mains parfois. Non, blague à part, vraiment je vous encourage à venir y jeter un œil et à coller les derniers petits mots qui sont là. Vous me direz comment vous vous sentez après avoir lu. Et puis je crois que c'est ce que Dieu veut en fait. C'est que par les reconnaissances, les remerciements, ça puisse changer nos cœurs, notre façon de voir. Et puis j'ai envie de vous laisser avec un verset. Je crois bien que c'est Paul qui dit dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est vraiment facile? Non. Mais je crois qu'on est appelé à ce que la joie ne dépende pas des circonstances. Et en ça, peut-être qu'on peut être toujours joyeux. Voilà, alors je vous laisse avec ça. Et puis, regardez dans le livre de gratitude. Et puis, voilà, bon dimanche.
Merci. On va chanter un dernier chant. Je vous invite à vous lever. Je ne reprendrai pas la parole après, comme d'habitude. Donc, c'est maintenant l'envoi. Soyez bénis. Bon dimanche. Bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne. Et puis, qu'on prenne cette bonne habitude d'être reconnaissant dès aujourd'hui. Merci.
Je me suis dit, je m'imagine la tête de Jésus comme la tienne.